Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi. Dans 3, 2, 1, action!
Bonjour, bienvenue à En action, notre podcast sur l'activité physique et la santé. Aujourd'hui, je suis avec Laurie Michel, fondatrice et conférencière chez Vivala. Bonjour Laurie.
Bonjour Daniel, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
Ben oui, moi aussi. Aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant, c'est le droit à la déconnexion. On va parler de ça un petit peu plus en détail tantôt, mais pour l'instant, pouvez-vous nous expliquer de où ça vient cette idée-là de parler de déconnexion puis de droit à la déconnexion?
Oui, alors dans un premier temps, en fait, moi j'ai souffert de problèmes d'hyperconnectivité. J'ai été la personne accro par excellence à son téléphone cellulaire. J'ai eu des problèmes de santé, on va dire, à un moment. J'ai aussi expérimenté l'entreprise qui n'octroyait pas forcément le droit à la déconnexion en dehors des heures de travail, donc les messages le soir, la fin de semaine, sur des canaux privés, sur des canaux professionnels, mais qui faisait que ça m'a un petit peu amené à un moment à pratiquement un épuisement en fait professionnel. C'est là où j'ai commencé à rentrer un petit peu en observation sur ma façon d'utiliser la technologie, aussi placer le travail dans ma vie. Et Vivala est né quelques mois plus tard en fait avec la mission de sensibiliser la communauté à ce problème d'hyperconnectivité qu'on est nombreux à vivre aujourd'hui, avec aussi une ambition de donner des outils concrets aux personnes, pas uniquement faire la sensibilisation, mais aussi avoir un impact, avoir des outils pour que les gens puissent vraiment mettre en place des bonnes habitudes autour de la technologie. L'idée n'étant pas de la diaboliser, mais vraiment de reprendre le contrôle sur ces systèmes numériques.
OK. Ce serait quoi quelqu'un qui utilise trop la technologie ou qui ne se déconnecte pas assez? C'est-tu un nombre d'heures par jour qui est le maximum avec des écrans? C'est comment on qualifie ça, quelqu'un qui est trop connecté?
Ben, c'est certain que le personnel de la santé met en avant un certain nombre d'heures par jour. Au Canada, il est de 2 heures. On s'entend qu'aujourd'hui, avec notre mode de travail qui est sur les ordinateurs, c'est quasi impossible à atteindre. Faut faire attention au temps d'écran avec qu'est-ce qu'on va faire aussi, comment on va consommer le numérique. Ce qui est important, c'est surtout d'observer comment on se sent après avoir consommé la technologie. Est-ce qu'on a des problèmes physiques? Est-ce qu'on a des problèmes santé mentale aussi? Ça peut perturber notre estime de soi, par exemple, en fonction de comment on va consommer en ligne. Donc, c'est plus rentrer en observation avec soi, comment on se sent pour vraiment détecter les problèmes qu'il pourrait y avoir autour des écrans.
OK. Fait que ce serait ça l'hyperconnectivité. Est-ce que c'est quand on se sent trop souvent attiré par les écrans puis on a de la difficulté à décrocher des écrans, comme quand il y a une certaine addiction?
C'est ça, la définition de l'hyperconnectivité, si on veut rentrer vraiment dans la définition, c'est un usage élevé, voire excessif d'Internet et de la technologie. C'est un petit peu mettre le numérique au cœur de tout. C'est à ne pas confondre avec la cyberdépendance, où là, souvent, la cyberdépendance, on va partir avec une addiction aux écrans. Donc là, on va avoir vraiment de la difficulté à vivre sans être connecté. On va se couper parfois de sa vie sociale. On va peut-être même déborder sur son travail. L'hyperconnectivité, on reste quand même active dans sa vie sociale et dans sa vie de travail, mais on déborde, on a une petite perte de contrôle au niveau des outils numériques. On peut aussi voir des problématiques autour de la conciliation famille-travail. On va avoir la difficulté à couper, par exemple, avec les outils qui proviennent du travail, les communications le soir, les courriels, les appels avec les collègues, peut-être, par exemple. Donc, c'est pas mal.
Okay. Juste parce que là, j'essaie de faire la différence entre cyberdépendance et hyperconnectivité. Est-ce que l'hyperconnectivité est plus reliée au monde du travail, si on veut, puis la cyberdépendance plutôt reliée au loisir? Quelqu'un, par exemple, qui jouerait beaucoup à ses jeux vidéo, même qui pourrait y jouer de façon excessive, ce serait quelqu'un qui aurait plus un problème de cyberdépendance, alors que l'hyperconnectivité, c'est c'est d'être toujours connecté au travail, c'est ce que je comprends ou pas nécessairement?
Non, pas nécessairement au travail. L'hyperconnectivité, c'est vraiment par rapport à notre consommation du numérique et d'Internet en général. Donc, c'est juste que la cyberdépendance, souvent, c'est une problématique qui va être traitée avec des psychologues, avec le personnel de la santé, avec un accompagnement vraiment plus particulier, c'est quand on a un petit peu dépassé le stade de l'hyperconnectivité.
OK. Puis est-ce qu'un mène vers l'autre? Est-ce que l'hyperconnectivité mène souvent vers la cyberdépendance?
Il peut. Il peut. Pas tout le temps, mais il
C'est
peut.
pas
Ça peut être un
systématique, mais...
facteur. Oui, tout à fait. On commence souvent doucement avant de tomber dans la cyberdépendance.
OK. Puis c'est quoi les impacts sur une personne de l'hyperconnectivité? Est-ce que ça va avoir un impact sur sa santé mentale, j'imagine, sur sa santé physique aussi? C'est quoi les impacts?
Oui. Tout à fait. Ben, on peut observer plusieurs impacts, donc santé mentale, physique, mais aussi les relations sociales. Santé mentale, on s'entend qu'on stimule énormément notre cerveau aujourd'hui avec les outils numériques. On lui octroie plus du tout de pause. Mais notre cerveau, il a besoin de repos. Hein. On n'est pas fait comme des machines. On ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça peut causer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. On peut aussi observer des problèmes de mémoire, mémorisation. Hein. Si je vous demande, est-ce que vous connaissez votre numéro, les numéros de téléphone de vos proches et de vos amis par cœur? Il y a de fortes chances que ce soit le téléphone cellulaire qui est la réponse. Donc, il y a aussi certains automatismes qu'on a mis en place et qui peuvent entraîner ce genre de problématiques, on va dire, aujourd'hui. Donc, santé mentale, santé physique aussi. Le fameux syndrome Tech-Neck, par exemple, hein, des douleurs au niveau des cervicales, au niveau des épaules. On passe beaucoup de temps en mode sédentaire à cause de la technologie. En moyenne, 42% de notre temps éveillé dans une journée donc est passé à des activités sur Internet, donc souvent des activités en mode sédentaire. Donc, c'est une des problématiques aussi. On bouge moins. C'est très important d'observer ça, puis d'essayer de mettre plus d'activités physiques à son agenda. En termes de relations sociales aussi, hein, on va dire que le courriel qu'on va envoyer à 22h du soir à son collègue, il va impacter notre relation. Il va envoyer comme aussi un message de « je pratique un peu la culture du sans-repos, hein, il n'y a pas d'heure pour envoyer de message, il n'y a pas d'heure pour travailler ». Donc, ça va impacter nos relations sociales, ça va impacter aussi la culture d'entreprise, hein, la santé mentale de la personne. C'est un cercle dans un sens. La façon dont on va aussi utiliser la technologie, hein, parfois on va prendre le téléphone alors qu'on est en train de discuter avec quelqu'un ou qu'il y a une personne qui est par exemple en réunion en train de nous faire une présentation. C'est assez frustrant, c'est contre-productif en plus parce que la personne va avoir certainement à répéter qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Donc ça a vraiment des impacts sur ces trois axes.
OK, fait que ça a des impacts finalement sur les personnes elles-mêmes en lien avec leur niveau de satisfaction par rapport à leur vie, j'imagine, avec leur santé mentale, etc. Mais ça a aussi des impacts sur le milieu de travail, c'est ça que je comprends. Puis c'est-tu plus vers ça que vous offrez, mettons, vos conseils puis vos conférences, j'imagine, parce que c'est un créneau là, que moi, mettons, je suis dans le domaine de la santé en entreprise avec le défi entreprise et tout ça, mais c'est un... On n'en entend pas beaucoup parler de ce droit-là à la déconnexion puis de ces problématiques-là. J'imagine qu'il doit y avoir une demande dans les entreprises pour ce type de contenu-là puis de conseils-là.
La demande est grandissante. En effet, je pense que les dernières années qu'on a vécues aussi avec le mode de télétravail qui s'est doucement installé, ouais, a pas mal perturbé notre mode de travail et notre façon de nous déconnecter. Ça a été très complexe pour beaucoup de gens. On s'est retrouvés à la maison avec le lieu de travail qui se transforme en lieu de repos le soir. Puis ça a été très difficile, ouais, pour beaucoup de gens de se déconnecter. Donc oui, le droit à la déconnexion est de plus en plus dans les discussions en entreprise. On offre, oui, en effet, des services, donc formation, conférences, également des accompagnements pour instaurer le bien-être numérique. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, le bien-être numérique. Donc, qui fait à la fois de la sensibilisation pour l'aspect hyperconnectivité, comprendre comment la technologie est conçue, comprendre les systèmes qu'il y a en arrière. Il y a tout un système qui est mis en place par les plateformes pour nous ancrer chez nous des habitudes, pour faire en sorte qu'on va consommer, nous habituer, attendre notre bras hein, pour aller chercher notre tablette ou notre téléphone cellulaire. Donc, comprendre notre relation avec la technologie, puis ensuite mettre en évidence les bénéfices de la déconnexion, qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, en tant que personne, mais nous aussi en tant qu'employés, gestionnaires, tous les bénéfices qu'on va avoir pour notre productivité, efficacité, parce qu'il y a aussi un impact direct de l'hyperconnectivité sur notre productivité au travail. On s'entend que notre corps a besoin de repos. Si on continue à le stimuler constamment, on va avoir beaucoup moins d'idées, on va avoir la difficulté à trouver des nouvelles pistes de solutions. Donc, c'est aussi un des impacts de l'hyperconnectivité. Donc, on a tous à gagner en fait autour de ce mode déconnexion dans la sphère travail et personnelle.
OK, ben, c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, mettons, je le remarque, là, puis j'ai pas vos connaissances, mais si, mettons, des fois, j'ai à m'attaquer à un problème complexe ou à réfléchir, mettons, à un plan, mettons, à plus long terme, ben, souvent, je vais avoir tendance à prendre un crayon puis une feuille de papier, m'en aller loin de mon écran pour être sûr, premièrement, de ne pas être dérangé, puis deuxièmement, d'être dans un système analogue, là, tu sais, d'avoir un crayon puis pas d'interaction possible avec un écran, ben, ça aide la créativité pour moi, là, mettons, ça, c'est un de mes trucs à moi. Fait que j'imagine que je dois pas être le seul, là, mettons, à utiliser ces stratégies-là, des fois, pour m'aider à être plus créatif ou à être plus concentré aussi, là.
Non, en effet, les distractions numériques, c'est 28% de perte de temps dans une journée de travail. Ouais. Parce qu'elles viennent constamment, les notifications, on pense avoir peut-être reçu un courriel, on laisse la boîte courriel ouverte. Donc, c'est certain que de se couper pour quelques instants de la technologie, pour se concentrer sur quelque chose de particulier, va aider en effet à avancer en fait sur notre tâche. Pour la petite anecdote, moi, en fin d'année, je fais 2 journées de retraite stratégique complètement coupées en nature pour faire mon bilan de l'année, pour réfléchir aussi au plan de la prochaine année, sans aucun accès ni au courriel, ni au téléphone. Ouais. Laisser aussi sa tête réfléchir toute seule parce qu'on a accès à Internet très facilement aujourd'hui. Et des fois, on va aller rechercher au lieu de chercher dans notre tête, au lieu de faire le travail de se lancer dans notre réflexion personnelle. Donc, c'est aussi important de faire ce genre d'exercice régulièrement.
Ouais. Ben, moi, je me souviens aussi, là, mon père, quand j'étais petit, il revenait du travail, puis des fois, il ramenait du travail à la maison, puis mais son travail, ça tenait dans une valise, là, c'était pas son téléphone ou un ordinateur portable, c'était une valise avec des papiers puis des dossiers dedans qu'il avait à terminer ou quoi que ce soit, mais je pense que c'était peut-être un peu plus facile de, mettons, prendre le temps du souper pour être déconnecté, parce que tu vas pas sortir tes papiers partout sur la table, puis étaler tes dossiers pendant qu'il y a des assiettes sur la table, puis de l'eau, puis tu ne veux pas renverser de la nourriture sur les feuilles de l'entreprise. Fait que j'imagine que ça devait être un peu plus facile dans ce temps-là de déconnecter au moins le temps du repas, mettons, pour les gens, pour les travailleurs.
Oui, puis il y a aussi un point par rapport à l'ancien temps, si on peut dire ça comme ça, c'est les attentes qui n'étaient pas les mêmes non plus. Parce qu'aujourd'hui, on s'entend que ce soit dans la sphère d'ailleurs professionnelle ou personnelle, on a tous une personne dans notre entourage qui nous a déjà dit « Tu as un téléphone cellulaire, tu réponds jamais, pourquoi ?» quand je t'appelle. Donc, il y a aussi des attentes qui se sont développées avec la technologie. On est accessible constamment. Donc, ça veut dire que même si on a fini notre journée de travail, on devrait répondre au téléphone en dehors de notre heure parce qu'on a un outil qui nous permet de l'être disponible. Donc, il y a aussi cette espèce d'attente qui s'est développée avec l'instantanéité du numérique qui peut aussi causer de la pression aujourd'hui qu'on n'avait pas avant.
Si on se sent mal quand on n'est pas connecté parce qu'on a l'impression de pas pouvoir, de pas être disponible pour les autres, est-ce que c'est parce qu'on souffre d'hyperconnectivité?
Ça dépend la raison. En vrai, c'est compliqué. Il faut savoir un petit peu plus sur le profil de la personne. Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de ne pas être joignable pour les autres? Est-ce qu'elle a peur de manquer quelque chose? Le fameux syndrome FOMO, Fear of Missing Out, qui a été pas mal mis en avant dernièrement. Hein, cette peur qu'on a parfois de rater des choses à chacune de nos déconnexions. Donc, c'est certain que dans les pistes de solutions, de réflexions à avoir autour de sa consommation numérique. C'est intéressant de se questionner un petit peu sur qu'est-ce que c'est qui se passe quand j'ai cette peur-là. Est-ce que j'ai peur parce que c'est une situation particulière que je suis en train de vivre dans ma vie, j'ai besoin d'être connectée aux autres. Est-ce que c'est par rapport à la sphère du travail est-ce que c'est par rapport à ma consommation personnelle de la technologie? Donc, rentrer en réflexion un petit peu avec la raison, qu'est-ce que c'est qui nous pousse à agir ainsi?
OK. Je comprends. Fait que maintenant, il n'y a pas des critères clairs pour dire quelqu'un est hyper connecté ou n'est pas hyper connecté. C'est un peu. Il y a une question de quantité, de fréquence, j'imagine. Il y a une question de raison pour lesquelles on consomme la technologie. Il y a un ensemble de facteurs, finalement.
Il y a un ensemble de facteurs. Il y a aussi, est-ce qu'on arrête certaines activités? Par exemple, est-ce qu'on arrête de sortir socialement pour rester sur les écrans? C'est tout un ensemble de réflexions à avoir
OK.
pour voir si on a véritablement un défi à reprendre le contrôle de la technologie, puis à continuer sa vie. La technologie, c'est important de la garder comme un outil. Hein, et pas la placer au centre de tout. On a besoin de garder des contacts sociaux, on a besoin de partir en nature, on a besoin de faire des activités sportives. Donc, c'est intéressant de s'observer en fait et de vérifier que, en effet, on ne la place pas en premier au détriment des autres choses. Le temps d'écran. À un moment, il y avait beaucoup de conversations autour de temps d'écran. C'est intéressant de se questionner sur le temps d'écran, mais c'est surtout intéressant de se questionner sur qu'est-ce qu'on fait en ligne. Parce qu'on s'entend que si on passe, par exemple, 4 heures sur son téléphone par jour, mais qu'il y a 3 heures, par exemple, qui sont dédiées à faire des activités sportives, à faire du yoga, à faire de la méditation, on s'entend que c'est une autre façon d'utiliser la technologie qui peut être bénéfique. Donc, c'est aussi intéressant d'observer quel type d'activité on va faire en ligne. Qu'est-ce que ça nous amène dans le fond?
Puis, à quel point les entreprises ont avantage à, je dirais, sensibiliser leurs gens à l'hyperconnectivité? Est-ce qu'il y a des gains à faire en termes de productivité, par exemple, ou en termes de réduction d'arrêt de travail? Est-ce que les entreprises ont avantage à faire ça, ou est-ce que, dans le fond, ou est-ce que plutôt ils devraient ne pas en parler puis espérer que les gens continuent à travailler le soir? Ce serait quoi votre point de vue sur ça?
Non, non, elles ont. Mais dans un premier temps, c'est certain que les entreprises ont une responsabilité dans l'hyperconnectivité de leurs employés, dans le sens où on passe plus de 7 heures par jour au travail, on utilise la technologie au quotidien. Donc, c'est évident que elle peut avoir un impact sur la consommation de leurs équipes. Les entreprises ont tout intérêt en fait à sensibiliser leurs équipes parce que, comme je le mentionnais, il y a des enjeux pour leur santé mentale, pour leur santé physique, pour leur productivité, efficacité. Donc, des employés qui vont savoir gérer le numérique, c'est des employés qui vont être en mesure de mieux gérer les communications en interne, peut-être réduire les frictions entre collègues aussi, créer comme un environnement que j'appelle le bien-être numérique dans l'entreprise. C'est aussi faciliter la conciliation famille-travail. C'est un enjeu de taille face à la pénurie d'employés qu'on vit aujourd'hui. Il y a une étude Léger qui est sortie il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je pourrais ressortir les chiffres, ils ne me viennent pas en tête, mais c'était autour de 80% des employés qui prennent à cœur la conciliation famille-travail. Le droit à la déconnexion fait partie des mesures phares pour ce fameux accès à la conciliation famille-travail. En termes de productivité, c'est évident aussi, hein, des employés qui savent gérer les distractions numériques vont mieux travailler. En moyenne, une personne va perdre 56 minutes de sa journée sur les réseaux sociaux parce qu'il n'arrive pas à contrôler sa consommation sur ces plateformes-là. Donc, aider ses équipes à mieux contrôler sa consommation numérique, c'est aussi les aider à être plus productifs, à avoir de meilleures idées et, dans le fond, à aider l'entreprise à grandir.
Jusqu'où va le rôle de l'entreprise là-dedans? Est-ce que son rôle, c'est un rôle d'abord de sensibilisation, j'imagine, mais est-ce que l'entreprise devrait, selon vous, imposer des politiques, par exemple, de déconnexion de, je sais pas, là, 18 h jusqu'à 22 h, je sais, ou est-ce que le rôle de l'entreprise se limite à émettre des suggestions, à votre avis?
Il y a certaines entreprises qui ont déjà mis en place des politiques. Hein. La loi pour le droit à la déconnexion est un petit peu plus, on va dire, en vogue en Europe. Elle est arrivée en Ontario en juin dernier. Hein. Les entreprises de plus de 25 employés ont l'obligation d'avoir une politique du droit à la déconnexion avec des horaires donc stricts auxquels les employés ne sont plus disponibles en dehors des heures de travail, sauf en cas d'urgence. Donc, c'est certain qu'après, il faut réfléchir à la réalité de chaque entreprise, le secteur d'activité, le nombre de personnes aussi dans l'équipe. Dans un premier temps, c'est très intéressant de lancer la conversation en interne. C'est sûr qu'un engagement de la direction, c'est toujours important pour aider à lancer la réflexion auprès des gestionnaires, auprès des employés, former les gestionnaires qui sont, on va dire, la personne qui vont faire fleurir un petit peu les valeurs de l'entreprise en interne auprès des équipes. Donc, c'est plusieurs actions qu'on peut mettre en place pour déjà avoir un impact immédiat.
Ça doit être par contre difficile, j'imagine, parce que souvent dans les entreprises, des gens qui ont tendance à monter dans la hiérarchie, c'est des gens qui vont être très motivés par leur travail, qui vont avoir une motivation intrinsèque à bien faire leur travail, qui aiment ça aussi en général. Puis ces gens-là, mettons, vont plus, j'imagine, plus souvent avoir le goût de répondre à des courriels le soir, puis d'envoyer des courriels le soir aussi. Alors, j'imagine que ça doit prendre une certaine forme d'engagement ou de faut le réaliser là, que ça peut devenir un problème. Il faut que les gestionnaires le réalisent parce que des fois, j'imagine qu'il y en a qui se disent que c'est comme ça que ça devrait être aussi, là.
Oui, tout à fait. Il y a une sensibilisation à faire des gestionnaires. C'est la première étape dans une entreprise pour vraiment faire en sorte que le message passe aux équipes et qu'il y ait un changement aussi, que ce ne soit pas juste de la sensibilisation qui meurt après la sensibilisation, mais qu'il y ait vraiment des actions qui soient mises en place par l'entreprise. Je pense que, il y a aussi un travail à faire, je vais dire, sociétal autour de notre façon de travailler, autour de la technologie. Autour du fait que parfois on pousse peut-être un petit peu trop loin nos limites d'humain au travail face au numérique, qu'il y a une réflexion générale à avoir autour de ça, parce qu'on ne peut pas fonctionner comme des machines, hein, on n'est pas des robots. Faire du 24, 24, 7 jours sur 7 comme fait la technologie, souvent c'est des gestionnaires motivés comme ça, hyper enthousiastes, qui vont finir en burn-out au bout de quelques mois parce qu'ils ne sont plus en mesure de suivre le rythme. Donc je pense que c'est un enjeu aujourd'hui de revoir notre façon de fonctionner dans la sphère du travail.
Puis, mettons qu'on ne veut pas se rendre là, puis justement qu'on décide là, de faire de l'hyperconnectivité un enjeu dans notre entreprise ou dans notre vie personnelle, c'est quoi les outils qu'on peut utiliser pour essayer de décrocher ou de se déconnecter un petit peu plus?
Oui, dans un premier temps, c'est vraiment de se sensibiliser. Il faut apprendre comment la technologie fonctionne, pourquoi on a cette difficulté à se déconnecter, pourquoi on a comme un besoin d'être disponible. Donc, dans un premier temps, ce serait vraiment de se sensibiliser, observer son comportement, se former. En entreprise, on peut se former pour comprendre un petit peu mieux les enjeux autour de l'hyperconnectivité, les enjeux aussi autour du droit à la déconnexion. Hein, vous le mentionnez tout à l'heure, il y a certaines personnes qui vont peut-être pas comprendre ce besoin de déconnexion, donc les sensibiliser à cet enjeu-là, les défis qu'on va aussi avoir en interne avec les différents profils d'employés qu'on peut avoir dans une équipe. Donc la première source serait vraiment se sensibiliser par le biais de formation. La deuxième, c'est certain que on peut aussi s'essayer à faire des réglages. Essayer de s'éloigner un petit peu plus de la technologie régulièrement. Donc, peut-être enlever dans un premier temps les notifications inutiles qu'on va avoir sur le téléphone, sur l'ordinateur. Ça va nous aider à commencer un petit, on va dire, diminution autour des sollicitations numériques. Ce serait deux premiers gestes qu'on pourrait commencer à faire. En entreprise, lancer la conversation avec ses équipes. Souvent, on a peur du mot déconnexion, on a peur du mot hyperconnectivité, mais peut-être lancer un échange, un sondage pour essayer de voir comment se sentent mes employés. J'ai parfois des personnes qui me disent, oh, nous, on n'a pas de problème, il n'y a pas de problème chez nous d'hyperconnectivité, mais est-ce que vous avez posé la question aux équipes? Parce que souvent, quand j'interviens, les employés sont très heureux de me voir arriver dans l'organisation et d'amener un débat en fait à l'interne avec des points qui étaient parfois difficiles à discuter avec leur gestionnaire.
Moi, maintenant, il y a un outil que j'apprécie, là, je pense, ben, que j'apprécie. Puis, c'est celui de pouvoir planifier un courriel, mettons, pour plus tard. Parce que des fois, le droit à la déconnexion, là, c'est aussi d'avoir le droit, je pense, de déconnecter de ses idées. Mais des fois, on ne gère pas toujours quand est-ce qu'on a une idée. Fait que je vous donne un exemple. Là, mettons, j'ai une nouvelle idée pour un projet. Puis là, comme il faut que je la note quelque part, soit je peux la noter dans un calepin puis la mentionner le lendemain, mais si de toute façon je suis pour l'envoyer par courriel, ben je peux, mettons, rédiger mon courriel puis planifier l'envoi du courriel pour, mettons, le lendemain à 8 heures. Comme ça, ben les gens ne se sentent pas obligés puis je n'envoie pas de courriel, mettons, à 10h30 le soir, 22h30, mais en même temps, ça me permet, moi, mettons, de libérer mon esprit puis d'avoir mis sur papier mon idée. Ça, c'est-tu un outil que vous suggérez de votre
La
côté?
programmation, oui, la
Ouais.
programmation beaucoup, parce que en effet, avec les défis de flexibilité d'horaire qu'on peut
Ouais.
avoir entre collègues, c'est un très bon outil, en effet, pour éviter d'impacter, on va dire, le repos de son collègue ou de son
Exact.
destinataire, tout en étant en mesure de travailler à l'horaire qu'on a décidé au final par
Exact.
rapport à sa réalité, sa journée, sa conciliation aussi d'horaire avec la famille, etc. Donc, c'est une belle façon, oui, tout à fait, de respecter le temps hors travail, puis de pouvoir se libérer, comme vous dites.
Puis aussi, ça permet de ne pas avoir l'air fou. Parce que, mettons, si je me lève, mettons, une fois à 4 heures du matin, puis là, disons, je me suis réveillé trop tôt, puis là, je commence à envoyer des courriels à tout le monde à 4 heures du matin, mais là, les gens, ils vont se dire, hey, soit lui, il travaille vraiment trop tôt ou il travaille vraiment trop tard. Fait que là, des fois, ça peut changer la perception que les gens ont du courriel, mettons. Tandis que si, mettons, je le programme puis je l'envoie à 8 heures, ben là, ça passe incognito. Mais en tout cas, moi, je trouve
En
que c'est un.
espérant que vous n'ayez pas trop des éveils à 4 heures du matin pour écrire les idées.
Ça arrive. Ben, je ne peux pas faire comme si ça n'arrivait pas, mais ouais, c'est déjà arrivé. Mais que voulez-vous? Des fois, on ne
Mais
contrôle pas tout.
c'est vrai que c'est ça, la programmation des courriels est un bon moyen
Ouais.
de rejoindre
Puis
son interlocuteur à l'heure, on va dire, à l'heure normale auquel on l'aurait
Puis en
contacté.
avez-vous d'autres, des outils comme ça, là, tu sais, je sais que moi, j'utilise aussi mettons, sur Facebook notamment, là, un truc pour bloquer mon fil de nouvelles, là, sur l'ordinateur. Comme ça, je n'ai pas constamment des nouvelles. Mais je garde quand même les notifications puis les messages. Parce que des fois, ça, j'en ai en cours de journée, puis comme il faut que je les prenne. Sauf que, tu sais, ça m'évite d'avoir envie de passer au travers de toutes mes nouveautés, là, si on veut. Fait que, y a-t-il d'autres
Et
outils comme ça que vous suggérez pour plusieurs personnes?
ça dépend un petit peu aussi si on travaille sur les réseaux sociaux ou si moi je recommande toujours d'avoir un profil professionnel. Si on
OK.
est régulièrement à travailler sur les réseaux sociaux pour son travail, souvent d'avoir son profil personnel, ça va nous perturber. On va avoir un ami qui nous écrit, on va avoir un commentaire sur une photo peut-être qu'on a publiée le matin
Ouais.
qui est dans la sphère personnelle. Donc souvent de créer un profil en fait professionnel qui va faire en sorte qu'on se connecte pour sa journée de travail à son profil professionnel, puis on est en mesure de couper aussi le soir quand la journée est terminée. On coupe de son Facebook pro pour passer à son Facebook personnel parce que c'est un défi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, normalement, c'est pour notre sphère privée. On s'écrit avec la famille, les proches, à travers des messengers ou des WhatsApp qui sont normalement des outils qui sont personnels. Donc, c'est pas recommandé de les utiliser pour la sphère professionnelle parce que ça va compliquer considérablement eh bien, notre temps de repos, hein, les collègues qui vont peut-être écrire. Ça. Donc, c'est une autre piste de solution qu'on peut avoir autour des plateformes des réseaux sociaux.
OK. Ben, c'est intéressant parce que effectivement, ça devient comme un peu flou, la ligne entre le travail et la vie personnelle. Donc, j'imagine que d'avoir deux profils séparés, ça peut aider à séparer les deux finalement, puis à garder ça bien distinct, puis à avoir, comme vous dites, là, des périodes de repos où est-ce qu'on va prendre juste les messages personnels et non les messages professionnels aussi.
Oui, ça évite, on appelle ça le blurring, là, c'est ce flou
Ouais.
entre le personnel
Ouais.
puis le professionnel. Puis en effet, ça va éviter aussi de faire parfois du multitâche. Hein. On va se connecter à Facebook personnel pour voir qu'est-ce qui se passe, puis on revient au professionnel. Puis ça perturbe considérablement notre journée, notre productivité aussi, hein, parce qu'à chaque fois, on sort de notre bulle de concentration. En effet, ça peut vraiment nous aider de faire ça dans notre journée de travail.
Cool. Puis après ça, ben, vous avez parlé tantôt de droit à la déconnexion. C'est quoi ce droit-là? C'est un droit comme reconnu de façon internationale? C'est nouveau? Moi, mettons, ça fait pas longtemps que j'ai entendu parler de ça. Je pense que c'est vous qui m'avez présenté l'expression droit à la déconnexion. J'imagine que c'est un droit qu'on va intégrer de plus en plus à l'intérieur des entreprises puis de la vie des gens en général.
En fait, c'est ça, le droit à la déconnexion a été, on va dire, un peu plus populaire peut-être en Europe. C'est la France qui a ouvert le bal en 2016 avec la première loi du droit à la déconnexion, qui est donc le droit pour les employés de ne pas communiquer en dehors de leurs heures de travail, surtout support numérique, donc que ce soit le téléphone, l'ordinateur, courriel, tablette, etc. Il y a d'autres pays qui ont suivi. L'Ontario, donc, a fait une loi en juin dernier. Donc, juin 2022. Au Québec, on en a parlé un petit peu plus peut-être pendant les élections. Québec solidaire qui a un projet de droit à la déconnexion pour les entreprises ici aussi au Québec. Donc, à suivre de ce côté-là. Mais moi, j'invite vraiment les entreprises à prendre les devants avec ces bonnes pratiques de déconnexion en dehors des heures de travail. Ça va aider les équipes à se reposer. On en a besoin, c'est plus à prouver aujourd'hui. Ça a été scientifiquement prouvé à plusieurs reprises que le temps de repos aide à avoir des employés qui sont heureux, qui sont productifs. Donc la déconnexion va aider tout le monde à mieux travailler.
Ben, pour terminer, là, je pense que j'amènerais sur une piste qu'on a déjà explorée sur le podcast. Là. Dans le fond, on a déjà parlé beaucoup de santé en milieu de travail, puis à quel point c'est une responsabilité qui est partagée, dans le sens que l'entreprise a à mettre des actions en place pour veiller au bien-être de ses employés, leur santé physique, leur santé mentale, mais l'employé a aussi une part de responsabilité dans sa propre santé. Puis j'imagine que c'est la même chose avec le droit à la déconnexion. Comme même si l'entreprise met en place tous les facteurs pour que la personne puisse décrocher le soir. Si l'employé n'utilise pas les moyens qui sont mis en place par l'entreprise, ben ça va pas fonctionner. Il faut que c'est une responsabilité qui est partagée entre l'employeur et l'employé.
Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que je mentionne qu'en premier lieu, il faut sensibiliser les équipes parce
Exact.
que c'est la première étape à faire en tant qu'entreprise, vraiment faire comprendre les enjeux autour de cette hyperconnectivité, les bénéfices de la déconnexion pour qu'après, quand on arrive avec des règles, des bonnes pratiques à instaurer pour tout le monde, les employés soient alignés en fait avec cette politique-là, qu'ils comprennent pourquoi on met ça en place, que c'est pour les aider. Que c'est pour leur permettre de mieux travailler, être plus performants, ou leur permettre aussi de lâcher prise, de relâcher la pression autour de cette disponibilité parfois constante que la technologie nous invite à octroyer aux autres, en fait, qui n'est pas véritablement bonne pour nous.
Super. Puis, ben, en terminant, là, comme si vous aviez à nous donner des petits conseils pour reprendre comme le contrôle, tu sais, soit dans le milieu de travail ou personnellement, pour reprendre le contrôle sur la technologie, ce serait quoi? Mettons mettons trois plus grands, les trois choses qui vont avoir le plus d'impact, si on veut.
Donc, le premier, c'est vraiment observer pourquoi je consomme, qu'est-ce qui se passe au moment où je consomme, c'est quoi mon signal dans le fond, c'est quoi qui me pousse à consommer. Le deuxième, les réglages. Dans le téléphone, on peut passer le téléphone en noir et blanc. Ça, c'est une façon de nous aider à moins consommer sur le petit écran. On peut aussi, donc je le mentionnais tout à l'heure, les notifications. Enlever les notifications qui sont un petit peu inutiles. On va éviter d'enlever tout. Ça peut stresser certaines personnes. Et ensuite, s'entraîner au silence numérique, passer son mode avion de temps en temps ou mode ne pas déranger pour s'entraîner un petit peu à ne pas avoir les notifications qui sonnent, un appel qui sonne. On peut peut-être commencer ça en fin de journée, à des heures où normalement c'est un petit peu plus calme, par exemple si le téléphone est plus utilisé pendant sa journée de travail ou en fin de semaine. Mais c'est une bonne façon aussi de s'entraîner en fait à s'éloigner un petit peu de la technologie. Puis si jamais il y a besoin de plus d'accompagnement, j'ai écrit un livre d'aide à la déconnexion numérique en collaboration avec une psychologue clinicienne à Montréal. 30 jours d'accompagnement pour aider à mettre en place en fait des routines autour du téléphone cellulaire notamment.
OK, vraiment intéressant. Puis si on veut vous suivre, parce que j'imagine que vous êtes active un peu au moins sur les réseaux sociaux ou vous avez une page, un site
Oui,
web ou
ben c'est
quelque chose comme
ça.
ça?
Oui, bien sûr, je disais, on n'est pas du tout, Vivala, c'est pas du tout, notre mission n'est pas de diaboliser la technologie, c'est vraiment d'aider tout le monde à mettre en place de bonnes habitudes autour de la technologie. Donc, on est sur Facebook, on est sur Instagram, je suis aussi active, moi, sur mon profil personnel, sur LinkedIn, on peut me trouver. Et puis, vivala.ca pour toute information complémentaire.
Fait qu'on n'est pas obligé de vous contacter par fax.
Non, j'ai un téléphone. Mais j'apprécie les courriers quand même, ça fait un petit peu old school, mais c'est toujours bien agréable. Là, j'en ai reçu pour la fin d'année, c'est toujours agréable
Oui.
d'avoir une petite carte postale.
Ah oui, c'est vrai, ça fait toujours plaisir. Signer à la main encore, ça fait encore plus plaisir. C'est tout
Oui.
à fait vrai. Ben, merci beaucoup, Laurie. C'est bien apprécié votre. Les informations que vous nous avez données, les conseils aussi que vous nous avez donnés. Puis, ben, si les gens ont plus de questions, ben, je les invite à vous contacter directement sur votre page. Merci
Merci
encore.
beaucoup, Daniel.
Salut.